qui profite le streaming musical ? C'est le thème de la chronique du jour. Le streaming, c'est-à-dire la diffusion audiovisuelle en continu sur Internet, a profondément changé les usages et l'économie du divertissement. Pour ne parler que de la musique, les plateformes de streaming musical ont toutes explosé ces dernières années. Entre Spotify, né en 2002, Deezer, en 2006, Amazon ou Apple Music, ce service est devenu, selon une étude de l'IFPI, l'Institut français de la propriété intellectuelle, réalisé dans 22 pays, le moyen d'écoute exclusif ou préféré de 45% des consommateurs de musique. Les débuts de l'Internet avaient laissé croire à l'émergence de pratiques collaboratives dans la création et la promotion de la musique. Des titres non présents dans les classements mais qui perdurent sur le long terme, une consommation plus diversifiée car mondialisée. Avec la légalisation progressive des pratiques, une nouvelle intermédiation entre l'offre et la demande a été acceptée par les anciens acteurs du marché. Cette autre facette de la dite révolution numérique soulève de nombreuses questions juridiques et réglementaires. Il s'agit de rechercher en permanence un juste équilibre entre protection des droits, innovation technologique et intérêt des consommateurs. Revenons rapidement sur la genèse du phénomène et voyons quelques-uns de ses effets. Avec cette question toute simple, à qui profite le plus le modèle économique du streaming musical ? Au public, c'est indéniable. L'abondance et la diversité des choix proposés à un prix très inférieur au support traditionnel, autour de 11 et 12,5 euros l'abonnement mensuel. Au producteur ensuite, opportunément alliés aux sociétés de droits d'auteur, ils ont contribué à combattre la pratique du téléchargement illégal. Souvenez-vous de la loi Hadopi, si controversée, si moquée. Les plateformes ont contribué à l'adoption d'un modèle économique digital, l'abonnement payant, majoritaire. Aujourd'hui, avec plus de 500 millions d'abonnements payants dans le monde, elles représentent 80% de la consommation de la musique enregistrée et 65% des revenus mondiaux de l'industrie musicale. Quant aux artistes, leur réflexe premier fut l'enthousiasme. Les débutants, autoproduits et ni disposés ni en mesure de signer avec un label, espéraient communiquer leur création à un public élargi, construire une communauté d'auditeurs sans intermédiaire, ramener du monde à leurs concerts via les pratiques de recommandation, avec l'espoir de vivre de leur passion. Il est vrai que les droits des artistes continuent d'augmenter, en moyenne, mais avec d'énormes disparités. Avant de redistribuer aux ayants droit, chaque plateforme garde près de 30% des revenus globaux. Les 70% restants ne vont pas directement à l'artiste. En moyenne, 9 artistes sur 10 touchent moins de 1 000 euros par an de revenus sur les plateformes de streaming musical. Il existe deux modes de calcul pour les rétribuer. Le premier est centré sur le marché, le second centré sur l'usager. Qu'est-ce que cela signifie ? Avec le market-centric, c'est simple. Pour connaître le prix d'une écoute, on divise le chiffre d'affaires redistribué par une plateforme par le nombre total d'écoutes sur celle-ci. Ce modèle était ultra-majoritaire, mais très critiqué par les artistes car il favorise la rémunération des superstars du moment. Le nouveau modèle, user-centric, lui, s'appuie sur les écoutes individuelles des abonnés. L'artiste est rémunéré au prorata de son nombre total d'écoutes chaque mois. Mais cela se compte en dixièmes de dollars. Aujourd'hui, l'industrie musicale est moins inquiète, les plateformes se font une bonne concurrence et la grande majorité des artistes restent en dessous du minimum syndical. Les revenus tirés des concerts, des ventes de disques ou du merchandising abondent leurs revenus, mais ce n'est pas donné à tous les candidats au succès. On retrouve peu ou prou la situation d'avant streaming. Mais la messe n'est pas dite. La protection des droits d'auteur et le respect des licences ne sont pas absolus dans l'univers mouvant d'Internet. D'autres évolutions juridiques et réglementaires sont attendues par les différents partenaires en France, en Europe et ailleurs. Sont apparus aussi les risques de l'intelligence artificielle générative. D'après une journaliste américaine, Spotify a mis en place un programme secret pour remplir certaines playlists ultra populaires de morceaux créés par des auteurs fictifs. Cela diminue d'autant la part des revenus à reverser aux artistes. Dans le même temps, un titre sur 10 envoyé à la plateforme Deezer n'est pas l'œuvre d'un artiste, mais créé artificiellement. Pour y faire face, l'entreprise a révélé en janvier de cette année qu'elle mettait en place un outil de pointe pour détecter ces abus. Mais le monde de la culture a encore du souci à se faire, car la musique n'est pas seule à voir son modèle économique de diffusion ébranlé. Fin 2024, Spotify a lancé son offre de livres audio en France et au Benelux, après l'avoir déployé sur les marchés anglo-saxons. Les abonnés à la plateforme ont déjà accès à 200 000 titres, dont environ 15 000 en langue française, sans souscription supplémentaire. Les éditeurs, les écrivains et les sociétés de droits d'auteur regardent de près les réussites et les déboires des acteurs du streaming musical. Pour finir, j'ajoute un léger bémol à ces craintes. Les disques n'ont pas complètement disparu. Au contraire, la vente des supports physiques a augmenté de près de 14% en 2024. 10 millions de CD, 11 millions de vinyles. L'émergence internationale de la K-pop, la pop coréenne, aux chorégraphies si appréciées des ados français, a cartonné aussi bien en ligne qu'en vente de CD. C'est la troisième année consécutive que les recettes numériques et physiques progressent simultanément, souligne l'étude de l'INPI déjà citée.